Bienvenue au premier épisode d'IA du Neuf. Aujourd'hui, on explore comment l'IA donne une voix aux machines et aux nouveaux-nés. Nos deux invités viennent de secteurs très différents, mais ils ont un point en commun. Ils utilisent l'IA pour décoder le son et en tirer des informations essentielles. Florent Vaumard, chef de l'exploitation chez Benoît, nous parlera de Nanny AI, une technologie qui écoute les pleurs des nouveaux-nés pour détecter d'éventuels troubles neurologiques. Yun Yao, PDG de Neuralink, nous expliquera comment son entreprise exploite l'IA pour surveiller les bruits et vibrations des machines industrielles et prévenir les pannes avant qu'elles ne surviennent. C'est le premier épisode d'une série où on découvre comment l'IA façonne déjà notre monde, bien au-delà des idées reçues. Bonne écoute!
Est-ce que vous saviez qu'on pouvait utiliser de l'intelligence artificielle pour surveiller les pleurs des bébés ou encore garantir la santé d'une machine? Eh bien aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. On va essayer de comprendre comment ces deux mondes, qui pourtant ont l'air d'être bien différents, fonctionnent avec une seule et même technologie. Bienvenue sur IA du Neuf. C'est Laetitia Constantin, développeuse IA et logiciel chez Explorer, et je suis aujourd'hui accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur chez Explorer.
Ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on parle de l'impact de l'IA dans la vie, que ce soit la vie privée, dans le milieu du travail. Quelles sont les répercussions et à quoi va ressembler la transition pour l'accueil de ces changements?
Donc, nous avons Florent avec nous aujourd'hui qui travaille chez Ubenois. Ubenois, c'est quoi? Alors, vous avez développé un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de comprendre, d'analyser les pleurs et la santé plus globalement des bébés. Et puis, vous avez une première solution qui s'appelle Nanny AI, qui est une application mobile qui est déployée dans près de 200 pays. Et puis, vous avez déjà récolté près de 4 millions de pleurs, ce qui est énorme. Bienvenue, Florent.
Merci beaucoup.
Et bien sûr, on accueille également Yun Yao de Neuralink. Merci d'être avec nous. Donc, on parle d'une technologie qui est orientée autour de la détection des pannes. On veut réduire les coûts, améliorer les conditions de travail pour les travailleurs. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Donc là, on vous a présenté très rapidement, mais on va quand même essayer d'entrer un petit peu plus dans c'est quoi votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui à travailler dans ces deux startups? Donc, est-ce que tu veux commencer, Florent?
Bien sûr, je travaille pour Benoît, comme tu l'as dit. Mon background est vraiment plus en transformation digitale, focalisé sur l'IA. Donc, j'ai fait mettre en place des solutions d'optimisation chez des clients. Ça peut aller de optimiser des transports à faire de la maintenance prédictive sur des avions. Donc, vraiment un chemin un peu varié. Et puis ça rejoint Benoît maintenant 2 ans. Pour travailler sur les pleurs de bébé.
Et toi, Yun, alors quel est ton parcours?
Bonjour, je m'appelle Yun Yao. Je suis la CEO et cofondatrice de Neuralink. Mon parcours, bon, on va commencer par le début. Je viens de Taïwan et ça fait plus de 30 ans que je suis au Québec. J'ai fait un doctorat à McGill en génie électrique. Je travaille pendant 12 ans dans un manufacturier pour les puces électroniques et aussi pour les dispositifs de communication vocale. Et ça fait 3 ans. Que j'ai fondé et je travaille avec Neuralink.
Là, on comprend mieux qui vous êtes, mais je veux vraiment pivoter sur vos compagnies dans lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce qui vous a amené à découvrir cette opportunité-là ou ce problème-là? J'aimerais savoir d'où vient l'idée, Neuralink. Pourquoi est-ce que toi ou ton équipe, vous avez identifié ça comme étant un problème important à résoudre?
Mon cofondateur, Jean-Samuel, ça fait plus que 15 ans qu'il travaille avec des capteurs intelligents. Et ces capteurs intelligents étaient pour être portés par les humains. Donc, ils mesuraient les athlètes, ils mesuraient ceux qui vont faire l'exercice. Il y a à peu près 4 ans, ça vient l'idée de peut-être ce serait aussi facile de mesurer les machines. On s'était dit, oh, ça devrait être facile d'aller juste mettre le capteur sur les machines, on va tout de suite savoir comment la machine se comporte. Mais ce qu'on a découvert, on savait pas, c'est que c'est un problème difficile. Et on utilise IA parce qu'on n'a pas le choix. Tu ne peux pas faire ça avec des méthodes traditionnelles de procéder aux signaux. Ça ne marche pas très bien. Donc, l'IA était un outil qu'on n'avait pas de choix d'utiliser pour que ça fonctionne. Vu que les athlètes sont quand même des gens disciplinés, ils écoutent bien les consignes, ça marche, ça fonctionne quand même assez bien. Mais les machines ne sont pas exactement comme ça. Il y en a qui sont en mauvais état, il y en a qui sont neufs, en parfait état, mais c'est tout un autre défi.
C'est clair.
Tu disais sur les athlètes, on met une montre, c'est facile. Sur la machine, est-ce qu'on met une montre sur la machine ou est-ce qu'il faut aller à l'intérieur des tuyaux de la machine pour pouvoir justement récupérer ces informations-là?
C'est une excellente question. Ça va En fait, on peut mettre où on veut. Ça dépend qu'est-ce qu'on va aller chercher.
OK.
Si c'est une grande machine avec plusieurs boîtes de vitesse, plusieurs roulements de vie, si on met ça en plein milieu, on va être capable de détecter de la vibration overall. Si on veut que ce soit précis, je veux savoir exactement quel roulement à billes est en train de créer un son ou une vibration anormale, il faut que le capteur soit proche de l'endroit où il peut avoir des problèmes. Et il y en a plusieurs. Donc, ça dépend à quelle précision qu'on va aller chercher pour l'identification de l'origine du problème.
OK. Est-ce que ça veut dire que c'est différent en fonction des machines qu'on cherche à...
Tout à fait.
OK.
Et c'est pour ça qu'il a été essentiel, parce que la solution, par défaut, il faut que ça s'adapte à chaque machine.
Je comprends dans le fond que pour bien faire ton travail, il faut que tu rentres vraiment dans les détails de comment est produit toute la chaîne de production. Ouais. Puis ensuite, grâce à ton expérience, tu dis, ben là, il y a une opportunité, là, il y a une opportunité, c'est ça?
Ce serait idéal, mais souvent, on n'a pas ce luxe-là d'aller comprendre les détails, parce que ça prend du temps de mon client, puis des fois, ils n'ont pas le temps de m'expliquer. Donc, eux, ils se disent, bon, le compresseur, là, il me cause du trouble. Mets un capteur dessus. Alors, je mets un capteur dessus. Et j'essaie de comprendre avec l'information qu'on me donne. Je n'ai pas toute l'info. Et je pense que c'est la même chose dans votre domaine aussi.
J'allais te demander, est-ce qu'il y a un temps minimal, est-ce que ça varie par machine, où tu as besoin, une fois que tu as mis le capteur, avant de pouvoir commencer à offrir le service de maintenance prédictive, dire, ah, ben là, il se passe quelque chose de différent.
Ça dépend des machines. Certaines machines, constant, stable, j'ai juste besoin de 2 jours.
OK.
C'est super facile.
Wow.
D'autres qui varient à chaque jour, à chaque mois, à chaque semaine, ça prend 2-3 semaines.
OK.
Et encore là, ça change avec la saison aussi, parce qu'une usine à crème glacée, elle ne fonctionne pas à même capacité en été qu'en hiver. Juste un exemple.
On pivote complètement parce qu'on parle de bébé, on parle d'humain définitivement et de la santé. Florent, tu dis que ça fait 2 ans que tu es chez Benoît. Est-ce que tu veux nous parler du problème que Benoît résout et comment c'est arrivé dans le monde?
Oui, ben, Lissa l'a bien dit au début, notre but c'est vraiment de comprendre et les besoins et la santé des bébés par les pleurs. Charles, le fondateur, est développeur logiciel de formation, puis il travaille dans un hôpital au Nigeria. Et il faut savoir que le système de santé au Nigeria, en particulier dans la santé en néonatologie chez les enfants, est très lacunier. Il y a beaucoup d'enjeux. Et ce qu'il a remarqué, c'est que des sages-femmes, des médecins étaient capables d'identifier que des bébés avaient des troubles neurologiques forts uniquement en les entendant pleurer. Donc c'est vraiment ça qui a parti l'idée. Il est venu au Canada. Il a continué ses études ici en apprentissage profond et a rencontré Sam, notre autre cofondatrice, qui elle est en sciences expérimentales, elle est PhD en sciences expérimentales en néonatologie, donc vraiment spécialisée dans l'enfant. Les deux ensemble ont décidé de créer Benoît, vraiment avec cet objectif de dire, ben en fait, le pleur, c'est un signe vital, il faut l'écouter parce qu'il y a quelque chose dans le pleur, c'est un signal, il y a quelque chose dans ce pleur-là qui nous permet d'identifier des aspects de la santé et des conditions médicales chez l'enfant.
Parlons d'ethnie juste rapidement. Est-ce que un bébé français, un bébé américain, un bébé qui vient du Nigeria, ils ont le même pleur? Est-ce qu'on peut reconnaître ces choses-là n'importe où dans le monde?
C'était une hypothèse qu'il fallait prendre puis qu'il fallait tester. C'est pour ça que ce qu'on a fait chez Benoît, c'est que une fois qu'on a validé le proof of concept, on s'est dit OK, il y a quelque chose, ça peut le faire. On a démarré des études cliniques dans des hôpitaux pédiatriques ici au Canada, mais aussi au Nigeria, au Brésil, pour justement enregistrer des pleurs de bébés et entraîner nos modèles sur des bébés.
C'est une initiative de recherche.
C'est une initiative de recherche à la base, bien sûr. Oui.
Okay.
Ça nous permettait d'avoir des accords dans ces hôpitaux. C'était aussi les relations qu'on avait évidemment au Nigeria avec, avec Charles qui vient de là-bas. Et donc, on a pu construire des modèles puis les tester sur des bébés nigériens avec des modèles entraînés sur des données canadiennes, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de différence matérielle, mais c'est à la naissance. À naissance, le pleur est vraiment contrôlé par le système central nerveux. Donc, c'est pas un choix délibéré de l'enfant. C'est vraiment, il faut le voir comme un signal que tu peux traiter. Pour ce qui est de nos modèles médicaux, on travaille vraiment que sur les nouveaux-nés. Donc, ça, c'est la portion, je dirais, comprendre la santé. Puis il y a comprendre le besoin de l'enfant. Puis là, ce qu'on se rend compte, parce que maintenant qu'on a une application qui est justement déployée dans 200 pays, on a 500 000 de parents qui l'ont téléchargée et qui enregistrent des pleurs des bébés. On a en une journée plus de pleurs que ce qu'on a fait pendant 3 ans d'études cliniques dans 3 continents. Alors, faut comprendre la dimension que ça a pour nous. Là, on fait des analyses de données et on se rend compte que les parents nous disent de plus en plus, puisqu'ils peuvent annoter les données dans l'application, qu'il y a des émotions qui arrivent après le 2e, 3e, 4e mois. Et donc, on se rend compte que vraiment, au début, c'est des besoins très primaires. Un bébé, il pleure parce qu'il a des gaz, il pleure parce qu'il a faim, il pleure parce qu'il a mal. Avec l'âge qui progresse, on voit que les parents nous disent « Ah, mais c'est juste qu'il est fatigué, c'est juste qu'il n'arrive plus à dormir, il est fatigué. » Et quand on regarde la distribution, c'est très clair que on ne le voit pas dans les premiers mois, ça, on le voit vraiment beaucoup plus avec les jours qui avancent. Ouais.
500 000 d'utilisateurs.
On leur propose des recommandations. C'est pas juste de leur dire le bébé a faim. Alors, évidemment, le bébé a faim, il faut le nourrir, mais tu sais, comment est-ce que tu peux valider que ton bébé a faim? Il y a des techniques pour valider que ton bébé a faim. Et finalement, c'est ces recommandations-là qui apportent plus la valeur que pourquoi bébé pleure. Parce que des fois, c'est juste de voir une recommandation à laquelle t'as pas pensé. Des fois, faire prendre un bain. J'y ai pas pensé. Ça fait 2 heures qu'il pleure. Il est 3 heures du matin. Je suis fatigué. J'ai pas dormi. C'est une liste mentale. Et de récupérer l'information du parent de quelle recommandation a fonctionné, ça nous permet, nous, après, de backtracker puis d'améliorer nos modèles en disant, OK, ben ça, c'était plus un pleur de faim ou etc. Donc, c'est comme ça qu'on procède.
Je suis curieux de voir, autant pour Benoît que sur Alink, quelle serait la réception du produit. Donc, pour des parents, est-ce que ça touche à la fierté? Est-ce qu'ils souhaitent avoir un outil supplémentaire ou il y a de la résistance pour les machines? Est-ce qu'on vit dans la frustration de ne pas savoir ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a une urgence ou on est à bras ouverts, on est content qu'il y ait enfin une solution? Comment est-ce que vous vivez cet accueil ou ce rejet-là de vos clients?
Des opérateurs ou des mécaniciens dans les usines sont très différents des parents. Parce que un parent, moi je suis parent, tout ce que tu veux c'est le bien de ton bébé. Alors tu vas tout faire pour régler le problème que le bébé va pas bien, que ça soit inconfort ou malade. Tandis que quand tu travailles dans une usine, souvent le problème est plus grand que ce que tu peux régler comme mécanicien ou comme opérateur de machine. Donc il y a un sentiment de bon, ici j'ai trop de choses à faire. Il arrive à 5 heures, je m'en vais, je m'en fous. Quand je présente la solution, la première crainte, c'est que est-ce que je vais avoir encore plus de choses à faire? Je fais déjà seulement 50% de ma liste de tâches. Est-ce que tu vas m'en ajouter? Non, la réponse est non. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas tout savoir. Ça, c'est la première crainte. Il y a un peu de crainte aussi. Est-ce que ça va voler ma job? Mais c'est moins. Parce que des usines où on travaille avec, souvent, ils ont plus de problèmes qu'ils sont capables de régler. Mmh. Alors, ils sont obligés d'être réactifs à la place d'être en préventif et planificatif. Donc, ce qu'ils devraient comprendre, je dis ça dans ce podcast, c'est que notre solution, ça va vous aider à réduire les choses à faire et non pas augmenter.
Je me retrouve beaucoup là-dessus. Après toutes les années de transformation digitale, le frein était généralement auprès des utilisateurs qui étaient affectés de « est-ce que ça va me rajouter quelque chose? »
Ouais, ouais.
Pour ce qui est des parents, je dirais, la poire est vraiment coupée. Nous, on le voit parce que les parents téléchargent l'application naturellement. Ils vont sur l'App Store, ils cherchent Nanny. En fait, ils cherchent analyse de pleurs, ils cherchent pleurs de bébé. Ils cherchent, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose pour m'aider? Ils tombent sur nous, ils téléchargent l'application, ils l'utilisent. Après, je te cache pas que quand on en parle sur les médias sociaux, quand on en parle même sur les médias générique, il y a un peu un regard qui est « mais est-ce que les parents ont vraiment besoin de ça? » Mm-hmm. Il y a un peu ce côté « c'était mieux avant, on le faisait sans avant. »
Est-ce qu'il y a l'inquiétude que ça va entraîner à la perte de ce 6e sens-là de parents?
C'est ça, c'est ce qu'on entend souvent, puis je pense qu'on essaie de rassurer en disant « le but de l'application, c'est de fournir de l'information, puis l'information, c'est du pouvoir. » C'est pas de déresponsabiliser les parents, on leur dit pas que l'application a toujours raison, on leur dit qu'on va leur fournir des pistes de solutions pour les aider. Mm-hmm. Puis on va même les aider à apprendre plus vite, à répondre à ces cues, à répondre à ces éléments. Finalement, c'est comme apprendre un langage, mieux comprendre ça. Il y a plusieurs exemples que je peux donner, mais c'est un peu comme le GPS fait perdre la direction aux gens.
C'est bon, ça.
Oui, c'est vrai qu'on a tendance à se fier au GPS, parce que ça, le GPS, ça fait je sais pas combien de décennies que c'est ici. On s'est vraiment fié à ça. Mais est-ce que ça veut dire que je peux pas naviguer dans Montréal et que je peux pas me déplacer et que quand je veux faire l'épicerie, j'ai besoin d'un GPS? Non. Mais si je suis perdu au milieu d'une ville que je connais pas, ça m'aide à me retrouver. Puis la réalité, c'est qu'un parent de nouveau-né, il est perdu. Il arrive à la maison, il a un nouveau travail. C'est d'être parent. Il a jamais vu ça. Et puis, on entend beaucoup de pleurs de bébés chez Benoît. Si vous venez dans nos bureaux, je peux vous dire que même sans être le parent de l'enfant en question, ça vous prend. Alors, un parent dont l'enfant, dont le bébé pleure, ça va vraiment les chercher à l'intérieur. Donc, je pense que c'est facile de l'extérieur de dire « Oh, mais le sixième sens ». Puis, tu sais, je pense qu'un des parents qui ont eu 2-3 enfants, c'est moins notre public cible. C'est vraiment plus ce premier parent qui est perdu et qui cherche de l'information, qui cherche de l'aide pour, comme tu disais, Youn, juste résoudre le problème de son bébé le plus vite possible et avec le moins de douleur possible.
C'est vraiment bien de voir comment ce genre d'idée-là a pu prendre forme et grâce notamment à l'intelligence artificielle. J'aimerais en profiter pour entrer un tout petit peu plus dans le détail de exactement qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans ces secteurs-là, parce que c'est une technologie qui évolue vite, mais très vite depuis quelques années. Et puis c'est bien et c'est très important de comprendre ce qui se passe sous le capot pour pas en avoir peur, pour mieux l'utiliser de manière plus responsable. Et donc quand on parle IA, on pense à ChatGPT par exemple, on analyse du texte. Et les voitures autonomes, on analyse des images. Puis là, on est sur des pleurs, on est sur des sons de machines, c'est du son, on analyse du son. Et donc, c'est quoi exactement le type de données qu'on attend? Comment est-ce qu'on la traite? C'est quoi les traitements qui sont différents pour du son? Comment est représenté le son dans une donnée, finalement?
Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est les spectrogrammes. Puis les spectrogrammes, finalement, c'est une représentation visuelle du son, de l'énergie, du son, de la fréquence du son. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, là. C'est utilisé depuis, je ne saurais même pas le dire sûrement, 50 ans, si pas plus. D'ailleurs, quand je parlais de ces études dans les années 70, ils utilisaient déjà des spectrogrammes. C'était des humains qui regardaient les spectrogrammes, puis qui allaient essayer de voir ce qu'ils voyaient des choses dans ces spectrogrammes-là. Alors, je pense qu'il y a vraiment changé, c'est la façon dont on est capable d'extraire de l'information du spectrogramme. Puis c'est là que, typiquement, les réseaux de neurones permettent vraiment, finalement, d'extraire beaucoup plus de features, de beaucoup mieux contraster ce qu'on est capable de lire dans un spectrogramme. Donc, je pense que c'est assez similaire. Je ne m'y connais vraiment pas beaucoup en visuel, mais je pense qu'il y a des méthodes de contraste qui sont très, très similaires avec ce qu'on fait dans le son, finalement.
Est-ce que Youn, tu veux ajouter quelque chose?
Ce qu'on fait, c'est un petit peu différent. Nous, on surveille des machines continuellement, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un bébé. Donc, c'est ce qu'on appelle la time series.
Le bénéfice de tout le monde, time series, données chronologiques.
Oui.
Alors, ça avance avec le temps. Je n'ai pas un morceau de son ou de vibration coupé en taille prédéterminée que je peux analyser. Les signes précurseur peut arriver sur 2 heures, 3 jours, 3 mois, etc. Donc, l'analyse de time series est pas mal moins populaire que tout ce qui est visuel ou tout ce qui est IA génératrice.
Ce qui est drôle, c'est que je vois quand même une grosse problématique différente entre vous deux. C'est que de votre côté, c'est de l'analyse continue.
Ouais.
Ça veut dire que votre modèle, il est déployé, puis analyse de manière continue ce qui se passe. Donc lui, son objectif, c'est de voir qu'à un moment, il y a dans la time series quelque chose qui est un peu différent. Puis là, ça fait quoi? Ça va générer une alerte, puis ça va prévenir la personne de regarder qu'est-ce qu'a la machine?
Exact.
OK. Okay. Est-ce que vous, le téléphone écoute en permanence, puis se déclenche quand il y a un pleur, ou c'est aux parents de venir appuyer et de dire « Ah, là, analyse mon pleur à ce moment-là? »
C'est exactement comme...
Okay.
Donc, c'est pense à Shazam pour bébé. C'est
okay.
Mon bébé pleure, j'appuie sur le bouton, j'enregistre. Dans le milieu clinique, c'est le médecin qui va aller récupérer le pleur en enregistrant directement depuis. Mais on travaille aussi dans le domaine continu.
Okay.
On a développé une solution pour justement les services de néonatologie, donc d'urgence en néonatologie, qui eux vont écouter les bruits dans le service. Parce qu'un nouveau-né, normalement, est dans le ventre de sa mère, puis là, tout d'un coup, il est au milieu de machines qui bipent, etc. Donc, on travaille avec des hôpitaux pour analyser l'impact du son, mais aussi, vu qu'on a nos modèles à embarquer, finalement, on met un micro vers le bébé dans l'incubateur. Puis l'idée, c'est de dire, OK, ben, on va pouvoir vous aider à identifier si c'est un pleur de douleur ou pas. Donc ça, c'est de l'information pour le staff médical, mais aussi de l'information sur le bruit, capter le bruit, puis identifier, classifier les bruits pour pouvoir leur dire, ben, en fait, cette machine qui est là, elle bipe vraiment fort, puis ça peut être gênant pour les nouveau-nés. Donc là, on a embarqué ces modèles-là, on a dû les modifier évidemment, les alléger, puis travailler dans le domaine continu aussi. Ouais.
Je trouve ça fascinant. Ça me fait aussi penser à... Je pense que la compagnie s'appelle Canopy. Mm-hmm. Essentiellement, c'est, l'objectif initial était de capturer des sons de la faune dans la jungle amazonienne et capturer des bruits d'oiseaux et aussi d'autres animaux. Puis finalement, ce qui est devenu utile à travers cet outil-là, c'est de pouvoir détecter les bruits de tronçonneuses dans la forêt pour pouvoir identifier des cas de coupe illégale. Donc, on avait une belle solution qui fonctionnait super bien, puis finalement, on a découvert d'autres opportunités en cours de route. J'ai l'impression
exactement
que c'est un
ça. Plus... Ouais, c'est exactement ça. On leur parlait de mettre un micro, et puis ils voulaient travailler sur les bruits. Et on dit, ben, on a un micro, on peut travailler sur les bruits avec vous. C'est exactement ça.
Vous avez plein de capteurs différents. Est-ce que le modèle d'IA qui est derrière est différent? Comment que vous pouvez jongler avec ces différences-là au niveau des machines?
En fait, on a un seul capteur.
OK.
Le capteur, il capte la vibration, les vibrations sur les trois axes, le son et la température. Donc, on a le même ensemble de modèles qui fonctionnent avec le capteur, parce que chaque capteur capture tous les trois types de signaux. La plus grande différence, c'est la température par rapport à les vibrations et le son. La température varie beaucoup moins rapidement que les autres signaux.
Et est-ce que, Benoît, vous pensez analyser l'image thermique du bébé ou non, c'est pas prévu? Ou si
non,
c'est déjà le cas?
On n'est pas là-dedans. On reste sur le son pour le moment. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le son. Tu peux penser évidemment les pleurs du bébé, mais après, le bébé grandit. Et puis, il y a déjà des études qui ont démontré que tu peux identifier des problèmes d'élocution bien avant qu'ils arrivent vraiment. Sur comment est-ce qu'un bébé et un enfant plus jeune s'expriment aussi. Donc, je pense que nous, pour le moment, on reste vraiment sur le son.
Est-ce qu'il y aurait moyen de transposer ces modèles-là pour essayer de comprendre et labelliser les miaulements d'un chat, les aboiements d'un chien, par exemple?
Pas ces modèles-là, mais la technique utilisée, en anglais, on dit « self-supervised ». Donc, c'est on part de données qui sont pré-entraînées sur de l'audio, at large, vraiment général, de l'audio général, qui sont entraînés sur des modèles de réseaux de neurones. Ensuite, on les améliore, on les fine-tune sur des pleurs de bébés non annotés. Mm-hmm. Et ensuite, on travaille en troisième étape sur de la classification avec des pleurs de données annotées. Donc, je dirais que ce passage-là, ces étapes-là, qui te permettent d'avoir moins de données annotées et d'arriver à un bon résultat quand même, le système est réutilisable. Nos modèles à nous sont vraiment entraînés sur des pleurs de nouveau-nés. C'est comme on en discutait, plus l'enfant vieillit et son évolution va faire que le modèle va être moins précis. Évidemment, le fait d'avoir une application maintenant dans la nature et qu'on a beaucoup plus de pleurs d'enfants plus âgés, on connaît l'âge de l'enfant, donc on peut adapter nos modèles, les améliorer. Mais à la base, on voyait déjà qu'il y avait un peu une perte de qualité avec un enfant de 12 mois, par exemple, contre un bébé de 1 mois. On voyait une perte de qualité. Donc, imagine un animal qui aboie ou autre.
Ouais, j'imagine que ça pourrait être encore plus différent parce que les chats, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment le même miaulement. J'ai un chat à la maison qui miaule beaucoup, qui s'exprime beaucoup. Mais quand j'entends les autres chats, je n'ai pas du tout l'impression que c'est le même type de miaulement.
Et se pose la question de comment est-ce que tu vas avoir des annotations de qualité. Voilà. Parce que nous, on a des annotations de qualité au milieu clinique parce qu'on le sait, quand on fait une prise de sang, le bébé a mal. Donc, on sait qu'il y a douleur quand le staff médical est là pour s'assurer qu'on a des données de bonne qualité. Les données qu'on récupère chez les parents, on sait aussi qu'on doit faire pas mal de pré-traitement de ces données-là pour vraiment s'assurer que on pense que c'est de la bonne qualité pour renforcer nos modèles. Imagine un chat ou un chien pour annoter ces données-là.
C'est la notation.
Comment tu peux être sûr à 100%? Moi, j'ai aussi un chat, donc je m'étais intéressé à la question puisque j'avais lu, bien, c'est pas de grandes études scientifiques, donc je peux pas me prononcer, mais c'est que les chats entre eux, dans la nature, ne miaulaient pas tant que ça entre eux. C'est plus une réaction à l'humain et à la communication à l'humain. Donc, c'est tout à fait possible que, comme tu dis, la communication varie vraiment d'un chat à l'autre,
okay.
parce qu'elle est vraiment basée là-dessus.
C'est l'environnement, finalement, c'est qui l'environnement. Influence le plus.
Mais peut-être que dans 5000 ans, l'évolution aura fait que c'est plus ça, tu sais.
Mm-hmm.
Mais de la même façon que les bébés ont évolué pour avoir des pleurs qui sont vraiment difficiles et désagréables, pour qu'on s'en occupe. Donc, tu sais, où est-ce qu'on en est maintenant? Je sais pas, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais nos modèles ne fonctionneront pas sur un chat ou un chien, ça j'en suis convaincu.
Ce que vous mentionnez par rapport à la détection et reconnaissance de son animaux, par exemple, ça a été fait autour des baleines. Donc, reconnaître des sons qui pourraient vouloir dire quelque chose, mais c'est pas parce que soudainement on comprend ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des experts qui ont regardé puis qui ont fait des associations. Ah, ce son-là, puis tout de suite après ça. Ce son-là, puis ensuite ça. Et puis, finalement, la force ici réside dans l'expertise et l'annotation. Et puis, je me demande justement, on est en continu. Nous, chez Exploré, on travaille avec les détections d'images, on travaille avec des données temporelles. Puis, je vois deux éléments qui sont sortis ici. C'est que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire en industrie, ça ici, c'est anormal, ça, c'est normal? Est-ce que vous êtes en mesure d'annoter ou vous allez collecter, puis ensuite leur donner un nom? Puis la deuxième question aussi que j'avais pour toi, c'était que tu disais que vous allez observer des fois sur 3 heures, 3 jours ou 3 mois. À quel moment est-ce qu'on lève le drapeau puis on dit « Hey, il y a quelque chose à faire ».
Donc la première question, l'expertise. Ceux qui travaillent à l'usine pendant longtemps, ils savent exactement comment les machines se comportent. Ils sont là, ils entrent dans une salle, mettons il y a 10 machines, avec juste l'environnement, ils peuvent dire précisément la machine au fond de corridor à droite est en train de manquer d'huile. C'est à cette précision-là, parce que c'est l'expertise qui est gagnée avec le temps, l'expérience et tout. Bon, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ce qui se fait assez souvent, c'est que souvent, pour savoir l'état de santé de la machine, le mécanicien va mettre une tournevis avec le bout métal sur la machine et l'autre côté, le poignet sur l'oreille pour écouter le bruit qui vient du fond de machine, comme à travers les vibrations. Alors, c'est une méthode très, très commune et ils se renseignent entre eux pour vraiment identifier le son de machine quand elle ne marche pas bien. Et c'est quelque chose que l'humain est capable d'apprendre. Le problème est dans le transfert de connaissances. Mettons que j'ai 3 personnes qui sont clés pour maintenir une machine. Il y en a qui partent en retraite, il y en a qui quittent la compagnie. Qu'est-ce que je peux faire pour assurer que mes machines sont bien entretenues? Que quelqu'un puisse savoir c'est quoi l'affaire la plus urgente à faire aujourd'hui dans les tâches de maintenance. C'est là où on aide le plus.
Ben, je suis tellement content de t'entendre le dire. C'est aussi ce qu'on voit chez Exploré, c'est qu'au final, l'expertise qui découle de 10, 20, 30 ans d'expérience, qui est dure à qualifier, qui est dure à mettre en mots, finalement, c'est un paquet de signaux que, intuitivement, que ce soit un parent qui est à vivre avec son enfant, finalement, c'est ça qui se passe. Puis avec, dans ce cas-ci, les machines, c'est de pouvoir s'assurer que ce savoir-là, il est capturé, puis l'IA va pouvoir dire, on a des signaux qui ont déjà été vus dans ce pattern-là. On reconnaît cette combinaison-là de signal. Puis la dernière fois, il y avait ça qui se passait, donc c'est probablement ça qui se passe. C'est de répliquer finalement l'expertise ou de capturer ou de faciliter la formation de la prochaine main-d'œuvre qui va pouvoir utiliser ce savoir-là ou ce signal-là de l'IA, c'est ça?
Exactement. Ces experts-là sont les meilleures personnes pour annoter nos données, en fait. Et je vois tellement un parallèle par rapport à ce que vous faites, Florent. C'est qu'un parent expérimenté, un infirmier expérimenté, va pouvoir savoir l'état de santé de bébé sans vraiment mettre leur main dessus. Ils rentrent dans la salle, ils savent, ce bébé, il a mal. On va faire de quoi? C'est très, très similaire avec les machines. Ça vient avec l'expérience. Alors, ce qu'on peut fournir maintenant avec nos capteurs, c'est de pouvoir être là tout le temps. En fait, être là quand il n'y a personne d'autre dans l'usine. Et aussi, valider est-ce qu'il y a vraiment une différence dans le signal.
C'est de l'aide à la décision.
Exactement.
On approche la fin. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des défis au niveau éthique et vie privée?
La réponse est assez simple. Pour les machines, elles s'en foutent. Les machines n'ont pas de ce problème-là. Le problème est plutôt dans la confidentialité pour l'usine. Ouais. Parce que l'usine peut ne pas vouloir que n'importe qui ait accès à leur...
C'est une information privilégiée.
Oui, exactement. Ouais.
Nous, le fait de ne pas justement enregistrer en tout temps et de laisser vraiment aux parents l'opportunité de choisir limite vraiment beaucoup les problèmes qu'on a. Après, dans tous nos enregistrements en milieu clinique, on passe des algorithmes pour s'assurer qu'on efface aussi les conversations potentielles entre docteurs, staff médical, etc. Parce qu'évidemment, c'est des discussions privées. Parce que nous, on ne sait pas qui est patient, on ne connaît pas son identité. Tout ce qu'on sait, c'est ça, c'est son pleur. Puis voilà des données méta sur sa santé. Donc, on ne sait pas qui est le patient. Donc, je dirais, pour le moment, c'est relativement limité. Mais c'est sûr que, tu sais, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire grand-chose avec des pleurs de bébé. Mais qui sait dans 50 ans ce qu'on est capable de faire avec ces banques de données. Donc, il y a une façon de faire où tu peux juste, si tu ne gardes que la représentation du son, donc le spectrogramme, tu n'as plus le son. Donc, tu peux éliminer cette portion de « Ah, ben, j'ai des enregistrements de son, c'est de la vie privée. » Tu n'as vraiment plus que la représentation et puis tu peux travailler là-dessus quand même.
Okay.
Donc, il y a vraiment des solutions à ça et on n'est pas gêné par ça pour le moment.
Très bien. Avant de conclure, moi aussi j'ai une dernière question. J'aimerais qu'on parle très rapidement de ce qui vous attend par la suite. Est-ce que vous avez un prochain défi qui arrive, un défi d'affaires ou un technique que vous voyez approcher?
Lequel?
Il faut choisir parce qu'on a plus beaucoup de temps.
Nous, on a un beau défi avec justement Nani, puis l'application, puis le fait que tu sais, on est une équipe de gens qui viennent à la base de l'intelligence artificielle, de la science. Moi, je suis un peu le généraliste de l'entreprise. Mais on a beaucoup de gens qui sont vraiment très, très techniques. Et donc, construire un produit pour consommateurs, c'est un vrai challenge. Puis pour nous, c'est crucial que ça fonctionne parce qu'on veut le monétiser. Finalement, on voit vraiment ça comme une opportunité de pouvoir ensuite continuer à faire des études puis aller chercher l'approbation de Canada Santé sur nos modèles en santé. Mais ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et c'est là qu'on voit une vraie opportunité avec Nani. C'est finalement, ça peut nous aider à financer ça dans le futur. Il y a ça, puis notre levée de fonds à venir en automne. Donc ça, c'est aussi beaucoup de travail et un beau challenge d'aller chercher de l'argent d'investisseurs.
Bonne chance avec ça.
Merci beaucoup.
De mon côté, je veux un peu revoir ce que vous avez dit de côté recommandation, n'est-ce pas? Les parents aiment ça qu'on les recommande des choses à faire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire pour l'instant, mais on veut aller vers comme objectif. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter des anomalies dans les signaux, mais associer ça à qu'est-ce que l'opérateur d'usine devrait faire, basant sur l'information-là. Cette étape-là, c'est un défi technologique et technique assez important et on a très hâte de l'attaquer et le résoudre.
Ouais. L'anomalie, puis ensuite le prognostic. Et puis,
exactement.
Ouais.
On s'aligne vers là.
Eh bien, merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Donc, merci beaucoup, Florent et Youn, d'être venus, d'avoir participé et partagé vos connaissances. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires si vous avez aimé, si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde les prochaines fois. Vous pouvez nous retrouver directement sur LinkedIn ou alors sur le site explore.ai. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Rémi et Laetitia sur Y'a du Neuf. À très bientôt.
Merci, merci à vous trois.
Merci. Merci.
On vient d'entendre deux experts, Florent et Youn, parler du problème que chacun résout. Bien que similaires, l'un et l'autre ont trouvé une solution unique pour le besoin de son secteur. D'un côté, comme Shazam, l'IA de Nani AI analyse un son soumis pour le reconnaître. De l'autre côté, comme un détecteur de fumée, celle de Soralink surveille en continu les changements ambiants pour prévenir les anomalies. Deux approches différentes, mais un même objectif. Transformer le son en information précieuse pour mieux comprendre et anticiper son environnement.